Mais on en parle beaucoup hein, de cette épidémie d'obésité en Amérique du Nord. Il y en a beaucoup au Québec également, des adultes, des jeunes qui sont en surpoids, on le sait. L'obésité, souvent, est considérée comme une maladie parce que des gens vont essayer de justifier un peu leur surpoids en disant « c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est mes hormones ». Hier, j'ai reçu, il est tout chaud, il est à peine sorti, le nouveau livre du docteur Maurice Larocque qui s'intitule « L'obésité n'est pas une maladie, redéfinir la gestion de poids et en apprendre davantage sur le régime keto ». C'est publié chez Un Monde différent. Là-dedans, on nous fait la démonstration qu'effectivement, ça se passe beaucoup plus entre les deux oreilles que dans une pilule miracle qui vous aiderait à maigrir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui nous écoutez qui veulent essayer de perdre du poids puis qui n'y arrivent pas. Alors, on s'est dit, demandons au docteur Maurice Larocque de venir nous voir. Merci d'être là, docteur Larocque.
Merci de m'avoir invité, Isabelle.
Ça fait très longtemps que vous vous intéressez à cette question. En fait, votre carrière de plus de 40 ans a été vraiment sur le traitement de l'obésité, sur la façon de comprendre aussi pourquoi on en est là.
Et c'est ça qui était le plus important. Et j'ai le goût de dire que ça a été ma mission dans la vie, là, sur le plan personnel. Là, c'est vraiment d'essayer de faire une différence dans la vie des gens porteurs d'une problématique, dont le surpoids. Et on sait que maintenant, il y a plus que la moitié de la population qui souffre de surpoids. Les jeunes aussi, ça les touche énormément. Alors, vous avez peut-être vu cette semaine, justement, il y avait eu des articles comme quoi que le cancer était en augmentation, même chez les jeunes de 15 à 25 ans, et que l'obésité en était probablement un des grands responsables. La même chose pour les maladies cardiovasculaires. Alors, c'est un problème social à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, ce n'est pas que québécois.
J'ai trouvé votre livre, je l'ai dévoré, mais ça, il n'était pas calorique, alors ça va bien. Parce que je trouvais que, d'abord, vous reveniez d'une façon très éducative et très, très bien vulgarisée sur l'évolution aussi de notre alimentation. Parce que c'est quand même assez central, l'aliment. Puis vous le rappelez, la règle de base, c'est pour maigrir, faut moins ingurgiter de calories qu'on en dépense. C'est ça le béaba. Vous revenez pas là-dessus, docteur Larocque.
Tout à fait. Et ça, c'est tout. Il y a une mode keto aux États-Unis où on favorisait beaucoup dans les dernières années la prise beaucoup de gras.
Ouais.
On coupe les sucres. Et ça, c'est vrai que couper les sucres, c'est très aidant. Donc, il y a trop de sucre. Tantôt, j'entendais votre dernier intervenant qui parlait de TDAH. Mais on sait que souvent, il y a une malnutrition avec une surconsommation de glucides. Et c'est assez étonnant de voir dans certains cas, pas dans tous les cas, mais quand on diminue ça, il y a une amélioration. Alors ça, on sait que à ce niveau-là, je ne veux pas accuser, mais on prend les directives qu'on a eues de nutritionnistes, du Guide alimentaire canadien, etc. Et on a favorisé la prise de glucides au détriment de la prise de gras. Mmh. Et donc, dans les aliments, les sociétés qui commercialisent les produits, bien, ils ont enlevé les gras puis ils ont rajouté des sucres. Et ce qui fait que dans les derniers 20 ans, l'obésité a doublé. Il y a un problème. Il faut regarder qu'est-ce qui se passe dans l'environnement.
Et vous parlez de la toxicité des aliments. Vous parlez entre autres du fait qu'on a justement sur le sucre, qu'on a incorporé le fameux sirop de glucose fructose de maïs.
Incroyable.
Vous vous rappelez que ça a été découvert dans les années 80 par un Japonais qui trouva la façon chimique de transformer le maïs en sirop de glucose fructose de maïs. Et vous dites, ce nouveau, là je vous cite, ce nouveau sirop pourrait remplacer, on s'est rendu compte que ça pouvait remplacer le sucre conventionnel à moindre coût. Donc là, Coca-Cola s'est garoché là-dessus. Ils ont remplacé le sucre de ces boissons gazeuses. Ils ont fait des économies de 20 à 30 % sur le dos des gens quand même. Parce que vous dites, aujourd'hui, on peut prendre à peu près 15 livres par année juste en buvant une canette de boissons gazeuses par jour.
Tout à fait.
Énorme.
Et le sirop de glucose fructose de maïs, ils en ont mis partout. Maintenant, toutes les autres compagnies ont emboîté
le pas.
Et parce que c'est plus rentable. Et si bien que ça cause un problème énorme, entre autres ce qu'on appelle le syndrome métabolique, parce que le foie, on se rend compte que l'organe, le foie, et a de la difficulté à métaboliser ça, et qu'à un moment donné, ça donne le foie gras. Et après ça, tout ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Alors, ce qui va donner du diabète type 2, qui va donner l'hypertension, qui va donner les problèmes de cholestérol. Alors, c'est probablement un des phénomènes les plus meurtriers dans notre société, le syndrome métabolique.
Vous rappelez aussi que l'obésité, vous dites, ça crée un état inflammatoire. Et vous expliquez aussi que la nourriture, là, on a remplacé la nourriture que les animaux trouvaient dans la nature, comme l'herbe ou la luzerne, riche en oméga-3, on l'a remplacée par des grains céréaliers, comme le maïs, maïs, le soja, qui sont riches en oméga 6, puis vous dites, ben c'est mieux des oméga 3 que des oméga 6. Ça, c'est important de le dire aux gens parce qu'on ne le sait pas, ça.
C'est ça. Les deux sont indispensables. C'est deux acides essentiels. Le problème, c'est qu'il y a maintenant trop d'oméga 6 pour les oméga 3. Alors, il faut mieux équilibrer ça. En réalité, il faut peut-être diminuer un peu les oméga 6, mais surtout augmenter les oméga 3 qui en a plus chez les animaux.
Qui sont anti-inflammatoires.
Tout à fait.
Parce que l'obésité, puis je reviens à ce que vous dites, c'est pas une maladie dans la mesure où on peut le contrôler beaucoup par le comportement. C'est ça que vous dites, dans le fond. Les gens qui maigrissent, c'est parce qu'ils se sont pris en main. Ça, il y a peut-être des gens qui vont pas aimer ce que vous allez dire, docteur Larocque, mais vous dites un peu, ça se passe entre les deux oreilles. Il y a une question de bonne volonté, de genre, je lâche pas, puis je m'y mets.
Tout à fait. Et moi, j'ai commencé, dans les débuts, le début des années 80, à m'intéresser à cette problématique-là. Et je m'y intéressais avec l'hypothèse qu'un problème d'addiction à la nourriture ou à d'autres substances, ça passe beaucoup entre nos deux oreilles. Alors, comment que je vois ça, ma motivation, mes pensées, mes croyances, etc. Et chose étonnante, en ce mois-ci, j'ai apporté un petit peu un résumé d'une étude qui vient d'être terminée à l'Université McGill avec des chercheurs, Dr. Daguerre et toute une équipe et dans laquelle je participais. Et on est parti avec l'hypothèse que c'est probablement hormonal, c'est probablement la gréline, la leptine. Puis si on perd, ça va nous amener à une réaction qui va faire qu'on peut pas perdre, puis sinon on reprend, et etc. Et là, on vient de démontrer que ce n'est pas la perte de poids n'est pas du tout reliée aux hormones. Elle est corrélée fortement avec ce qui se passe dans notre cerveau. Alors, donc, tantôt, vous aviez un spécialiste de
Joël Monzé, oui.
C'est ça, de neuropsychologie. C'est exactement ça qu'on vient de démontrer, parce qu'on voit, lorsqu'on met les gens dans une résonance magnétique, un appareil, et qu'on voit que c'est les cellules du cerveau reliées à la cognition, c'est-à-dire aux pensées, à ce qu'on se dit dans le fond, dans notre tête. Et pour moi, ça confirme 40 ans de ma mission dans le domaine.
Mais comment donc ce que vous venez de nous dire là? Comment? Parce que je lis, effectivement, c'est une étude sur le métabolisme cellulaire. Puis ça dit donc que pour perdre du poids, quand on perd du poids, ça se passe dans notre tête d'abord et avant tout.
C'est ça. C'est que
le cerveau influence notre capacité à restreindre notre apport alimentaire.
À faire nos choix alimentaires, nos choix de vie, etc. Et pour moi, c'est important, et ça va avec le titre du livre, l'obésité n'est pas une maladie. Oui. Je crois que on a tendance dans notre société à déresponsabiliser les gens. On va trouver un médicament, on va trouver un traitement. Votre dernière intervention en est un exemple.
La pilule miracle.
Et alors que ce qui fait que moi, les gens que je vois sont désespérés pour la plupart. Ils ont essayé 5, 10, 20 régimes et ils ont perdu temporairement. Ils ont repris, ils ne savent pas pourquoi, ils sont découragés, ils abandonnent. Avec tous les problèmes, on parlait de cancer, on parlait de maladie cardiaque, de diabète, etc., qui va suivre. Alors, c'est très important de ramener l'espoir. Moi, je pense que oui, c'est possible. J'avais développé au début des années 80 un questionnaire qui s'appelle le questionnaire poids mental. Et ce qu'on essayait de faire, c'est de déterminer quels sont les facteurs physiques, physiologiques et psychologiques qui pourraient influencer, intervenir dans le problème de poids.
Ouais.
On a plus de 500 000 tests qui ont été faits dans le monde et mes recherches sont basées évidemment avec toutes ces données-là qu'on a en France, au Canada, aux États-Unis. Alors, on arrive à dire, ma mission c'est de ramener l'espoir au fait. C'est de dire aux gens, oui, il y a quelque chose à faire. C'est pas toujours facile, mais c'est pas facile d'être gros non plus. Il y a un prix à payer. Les efforts sont énormes, physiques et psychologiques.
Docteur Larocque, quand vous voyez quelqu'un, quand un patient va vous voir, bon, je comprends que vous ne le jugez pas, puis vous êtes en mode solution, mais vous lui dites quand même qu'il faut qu'il cède un peu. Pour vous, quelqu'un qui est obèse, c'est parce qu'il mange trop puis qu'il ne fait pas les bons choix.
Tout à fait. Mais il y a une autre notion. Moi, je suis un partisan, je crois, et comme cette recherche-là le démontre, le pouvoir de la volonté, le pouvoir de ce qu'on se dit, le pouvoir qu'on a dans nos vies. Moi, j'appelle ça se responsabiliser. Il y a une autre notion qu'on mélange, c'est la culpabilité.
Oui.
Alors, on dit, ah non, on rendons pas nos gens qui ne sont pas coupables. Moi, je suis le premier à dire, vous avez le droit de dévier, mais ne lâchez pas. Vous avez le droit d'être gros. On n'est pas obligé de maigrir. C'est un choix. mais on doit assumer les conséquences.
C'est pas un choix santé, c'est ça.
C'est
vous
pas un, ben voilà, ouais. C'est un choix de je me rends malade mais je veux ça. OK, tu sais, je dis assume
ton
choix.
Est-ce qu'on peut être gros et bien dans sa peau?
Je dirais que non. Les gens vont vous dire, certains vont vous dire que oui. Je ne les crois pas tout le temps.
Ouais.
Et quand on fait nos questionnaires, comme nos inventaires sur le poids mental, on se rend compte que la plupart peuvent mentir, surtout les obèses morbides. Ils se mentent à eux-mêmes. Ils ne mentent pas aux médecins, ils ne mentent pas aux autres. Ils ont vécu la plupart du temps des traumatismes de l'enfance très tôt. Et là, on revient souvent à ça. Mais moi, ouais. Ce que j'ai appris, parce qu'on m'avait pas montré ça à l'université, que les traumatismes de l'enfance, l'impression d'abandon, de rejet, d'avoir été battu physiquement ou psychologiquement ou sexuellement, c'est souvent, c'est des émotions que l'enfant a ressenties très tôt et qu'il a occultées.
C'est soit on surmange, on mange trop puis on devient obèse, soit on se restreint et on contrôle son poids de façon même maladive et ça mène à des troubles alimentaires. C'était d'ailleurs la semaine, je pense qu'on est encore dedans d'ailleurs, dans la semaine du trouble alimentaire. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans les extrêmes. C'est aussi pire l'un que l'autre,
finalement. Et toutes les addictions reposent sur la même problématique. Voilà, les addictions dans l'alcool, les drogues, dans le travail.
Mais il y en a beaucoup qui pensent, qui regardent une personne qui est grosse, en surpoids, baisse, puis ils disent, ben là, gars, si tu veux maigrir, t'as juste à vouloir maigrir. Là. Si tu maigris pas, c'est parce que tu veux pas ou que tu fais pas assez d'efforts. Êtes-vous d'accord avec ça? Si ça se passe dans la tête, donc ça dépend de nous. Faut qu'on se parle.
Oui, mais je le fais pas avec un regard accusateur.
Ouais.
C'est-à-dire que la personne a ce choix-là. Malheureusement, dans notre société, quand on dit bon, l'obésité c'est une maladie, donc on a remis les clés aux médecins, aux chercheurs. Vous allez trouver un vaccin, vous allez trouver une pilule miracle, vous allez trouver quelque chose. Je suis malade. Non, vous avez des problèmes de gérer vos choix. C'est humain, mais il y a aussi des solutions. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment anti-culpabilité. C'est l'émotion que je trouve désastreuse. Parce que de toute façon, on paie le prix.
Ouais,
si je consomme trop, etc., que ce soit à cause des traumatismes de l'enfance que je gère mal ou que j'ai pas compris, mais ces gens-là ont besoin d'aide. Ces gens-là ont besoin de comprendre ce qu'ils font. Quand on comprend ce qu'on fait, c'est incroyable la capacité de progression que la personne se donne après. Mais si on comprend pas, c'est le découragement, c'est le désespoir.
Tout à fait. Je retiens, en tout cas, on va aller à la pause là-dessus, puis on va donner l'occasion à nos auditeurs d'intervenir, puis peut-être de nous dire comment ils voient ça. Et en particulier les gens qui ont un problème de poids, si vous voulez quelques conseils rapides là, pour essayer de gérer ça. Je retiens entre autres du livre de mon invité, Dr Maurice Larocque, que couper le sucre, c'est une bonne idée. On va dire quelques mots aussi sur le fameux régime keto, cétogène, parce qu'on entend toutes sortes de choses. On va revenir là, pour l'explication. 514-790-9850 pour nous dire comment vous vivez votre surpoids et si, d'après vous, effectivement, c'est une question de volonté. Est-ce que ceux qui sont gros en manquent? À tout de suite, tout le monde. On est avec un médecin, le docteur Maurice Larocque, qui vient de publier un livre vraiment que je vous recommande parce que vous allez apprendre plein de choses. Puis il y a des choses, des fois, qu'on sait déjà, mais qui sont excessivement bien vulgarisées, bien mises dans le contexte. Entre autres, toute l'évolution de l'alimentation. En 3 pages, le docteur Larocque revient sur, finalement, ce à quoi on fait face aujourd'hui, c'est-à-dire des lobbies alimentaires extrêmement puissants qui nous passent du sucre allègrement à peu près tout, du fameux sirop de fructose,
glucose fructose,
ça devient difficile de faire des bons choix santé. Heureusement, on parlait du guide alimentaire canadien, il était à peu près temps qu'ils changent leurs affaires.
C'était atroce.
Ou c'était affreux. Mais bon, c'est ça. On a avec nous Gilles. Bonjour Gilles. Vous, c'est le régime keto, hein? Cétogène qui vous intéresse, c'est ça?
Bonjour Madame Maréchal, bonjour Docteur Larocque.
Bonjour.
Ben, écoutez, j'ai écouté votre émission tantôt, puis vous m'avez interpellé. Écoutez, je vais vous donner mon profil en 30 secondes. 64 ans, retraité depuis 2 ans, je mesure 5 pieds 10 et demi. Je pesais 205 livres avec une belle bédaine qui n'était pas tellement esthétique. Je me sentais pas bien. OK, quelqu'un, l'automne passé, m'a parlé du régime cétogène. J'ai acheté le livre. On a commencé ça, moi et ma conjointe, parce que les deux, on a le même problème, on a le même âge. On a commencé ça très lentement, OK? Et puis, on a perdu du poids. On a perdu une vingtaine de livres chaque. Aujourd'hui, on stagne un peu, mais c'est plus difficile de perdre une livre à la fois, ces choses-là. Ma question est, c'est quoi le danger de continuer ce régime cétogène-là? Parce que les gens nous disent, écoutez, c'est bon, mais il faut que ça soit surveillé. Comment on surveille un régime cétogène?
Juste peut-être rappeler, Dr Larocque, vite, vite, en une phrase, c'est quoi le cétogène, le régime keto?
Le régime keto, il y a énormément de désinformation dans ça, et même des gens professionnels qui ont écrit des livres là-dessus où il y a énormément de désinformation. Keto, ça vient d'un mot anglais, en anglais, c'est ketosis, c'est cétose. Alors, quand le corps, on le prive de sucre, alors, à ce moment-là, on a des réserves de sucre qui sont nos cellules de gras et le foie va aller chercher son énergie dans les graisses qui va transformer en corps cétonique. Et ça, ça a permis à l'homme des cavernes qui passait des longues périodes sans pouvoir nécessairement s'alimenter correctement, de survivre, de se rendre à aujourd'hui. Alors, on a cette capacité naturelle. La cétose, c'est ça. Alors, c'est donc un régime très bon en sucre. Ça, c'est
très bas en sucre.
Très bas en sucre. Ouais. Maintenant, ce qu'on véhicule comme régime keto aujourd'hui à la télé ou un peu partout, c'est que souvent, c'est même pas keto. C'est un régime qui est bon en sucre. On a moins faim. De la minute qu'on réduit le sucre, le corps s'adapte et en 2 ou 3 jours, c'est un coupe-faim naturel incroyable. On n'a pas faim. Et donc, on mange moins. Mais là, il y a les fervents de dire, oui, mais si on mange moins de glucides, il faut
compenser. Donc, on mange plus de protéines?
Oui, les protéines. Et ça, on sait aujourd'hui par les expériences, la recherche depuis 70 ans, qu'on a besoin, par exemple, lorsqu'on migrait, d'1,5 grammes par kilo, ce qui va donner, dépendant des personnes, 90-100 grammes de protéines.
Par jour.
Ça, c'est pas de steak, là. C'est des protéines qui sont contenues dans
mais c'est quoi, par exemple? Pas de steak, mais quoi d'autre?
Des noix, des légumineuses, etc. C'est ça. On a besoin de suffisamment de protéines. Sans ça, le corps va chercher nos muscles, notre peau. Hein. On voit des gens qui ont mal migré ou qui sont malades. Oui. Finalement, ils sont étirés, les chairs sont molles. Ils sont vraiment pas beaux. Puis pas en santé. Là.
Oui.
Alors, ça, c'est important. Mais là, la mode a été qu'on va donner beaucoup de gras. Et il y a quelques mois à peine, j'ai un exemple de quelqu'un qui avait perdu, a fait une prise de sang. Son médecin lui a diagnostiqué un diabète avec des triglycérides, une sorte de gras dans le sang très élevé. Elle est allée sur Internet, a fait un régime keto. Elle a perdu à peu près de 160 à 147, 13 livres en 4 mois.
Couper le sucre, manger beaucoup de gras toutefois.
Donc, elle prenait, je pense, 12 ou 13 cuillères à thé d'huile de beurre par jour. Elle se forçait même. Et là, elle s'est rendue malade. Elle a eu de la diarrhée.
Ouais. Il ne faut pas faire ça.
Il ne faut pas faire ça. Et là, j'ai fait, moi, quand je l'ai vue, puis j'avais son rapport de sang, 3 mois après, là. Alors, là, elle n'avait plus de diabète. C'est vrai qu'un régime, un vrai régime keto, où c'est bon en sucre, ça règle le problème du diabète de quelquefois.
Il faut pas
prendre trop de gras. Ben je dis, l'excès, c'est risque les calories, c'est les calories.
Fait que là, la question, en fait, c'était est-ce que Gilles et sa conjointe peuvent maintenir leur poids aussi? Est-ce que ce régime-là peut être fait régulièrement, finalement, devenir un régime de vie?
Il peut devenir un régime de vie en autant qu'on contrôle la consommation des graisses aussi.
Voilà, puis qu'on fait le bon keto.
Qu'on fait le bon keto, qui est un keto que moi je vais appeler protéiné par rapport à un keto gras.
Voilà.
Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas de gras. Oui, on a besoin des bons gras, des acides gras essentiels. On a parlé d'oméga 3, d'oméga 6, c'est ça. C'est important. Mais en même temps, trop, non. Et maintenant, le régime keto est employé par des athlètes, par exemple, au Tour de France, les cyclistes. Mais ces gens-là ne veulent pas maigrir. Alors, donc, ils ne prennent pas de glucides. Ils vont prendre beaucoup de corps gras, mais ils ne veulent pas maigrir. Donc, ils maintiennent leur poids. On fait ça aujourd'hui. On traite des cancéreux comme ça.
Ouais.
Mais on ne veut pas qu'ils maigrissent. On veut qu'ils maintiennent leur santé. Alors là, si on ne donne pas de sucre, il faut donner suffisamment de protéines. Mais là, on va donner plus de matière grasse. Mais pas pour maigrir.
Pour clore sur la question de Gilles, c'est oui, on peut le faire sur une longue période, mais c'est une bonne idée de consulter un médecin aussi qui s'y connaisse.
Ouais,
voilà, on rajoute qui s'y connaisse.
Oui,
hein?
C'est ça, parce que malheureusement, il n'y en a peut-être pas beaucoup.
Merci beaucoup, Dr. Maurice Larocque. On peut commencer, si vous voulez avoir plus d'infos, en lisant « L'obésité n'est pas une maladie ». Merci beaucoup.
Dans une semaine, le 13 février en bibliothèque.